France Musique.
Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Saskia.
Directrice musicale de la maîtrise de Radio France. On va parler de chant choral jusqu'à 8h50 avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui arrive en studio dans quelques minutes, juste avant qu'on parle de ce grand concert ce soir auquel vous participerez, Sophie Jeannin. Concert de ce festival École en Chœur qui réunira presque 1000 jeunes chanteurs à l'auditorium de Radio France. J'aimerais qu'on évoque la disparition de ce compositeur suédois dont on parlait tout à l'heure, Sven David Sandström, qui nous a quitté à l'âge de 76 ans.
Je pense aussi pour un petit pays comme la Suède, quand on a un grand monsieur comme Sven David Sandström, on est tous en deuil un peu. Puis c'est-à-dire qu'il était tellement au service de la musique chorale que je pense que c'est impossible de grandir, de se former et d'exercer sans traverser la musique de Sven David. Donc oui, c'est un jour triste pour nous.
Qu'est-ce qui fait la particularité de son écriture justement pour le chant choral ?
Pour moi, il y avait une racine très profonde et naturelle dans un héritage qui rendait les partitions très instinctives et très accessibles. Et en même temps, on sentait que c'était une musique de notre temps. Donc c'est ça qui me plaisait, c'est qu'on n'avait pas l'impression de découvrir quelque chose de trop inconfortable. Et en même temps, ça mettait des défis nouveaux. Donc il y avait cette idée d'un pas vers l'avant et le regard dans le rétroviseur. Et ça, c'est très beau.
On va écouter ici A New Song of Love, un chœur qui a été écrit en 2009. Vous l'avez travaillé, cette partition-là?
Non.
En particulier?
Non, mais je connais la partition, mais je ne l'ai jamais montée.
On va l'écouter, il est 8h22 minutes. Le cœur de la radio suédoise, Peter Dijkstra, la direction ici pour ce titre New Song of Love du compositeur suédois Sven David Sandström, dont nous avons appris la disparition à l'âge de 76 ans. Un compositeur pour lequel le chant choral avait une importance toute particulière. Il est 8h26.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Sophie Janin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France, est avec nous ce matin. Rebonjour Sophie, on attend monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse Jean-Michel Blanquer qui est dans les couloirs, là, qui arrive en studio pour parler de ce grand concert donné ce soir, ce festival École en Chœur lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse justement. Grand concert à l'auditorium de la Maison de la Radio associant presque 1000 jeunes chanteurs venus de toute la France, des écoles primaires, collèges, lycées, mis à l'honneur. Quelles sont les vertus, Sophie, de la musique enseignée dès le plus jeune âge ?
Oh, il y a tellement de vertus. Je pense qu'on sait déjà que la pratique musicale collective, elle renforce tellement de paramètres chez l'individu par rapport à la mémorisation, par rapport à l'autonomie, par rapport au développement de plein d'acquis. Mais en dehors de ça, je pense que le chant choral, en effet, surtout et aussi le chant, vous savez, c'est notre première expression possible. Les instruments de musique ont été créés pour imiter la voix. Tout part de la voix. Donc finalement, je pense qu'il n'y a pas un meilleur vecteur pour développer tous ces paramètres dont on parlait. Et puis aussi la camaraderie, la solidarité, et dans le but de faire quelque chose de beau. Parce que on a tous ces vertus, mais vous savez, après, il me semble que la musique, elle a aussi une valeur en elle-même. Et justement, de toucher à cette beauté et de pouvoir la pratiquer, il me semble que ça fait énormément de bien à l'individu.
Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Avez-vous chanté lorsque vous étiez petit ?
Oui, beaucoup.
C'est vrai ?
Oui, toujours.
Vous en gardez des bonnes choses ?
Oui, je regarde que de bonnes choses. J'ai toujours aimé chanter, seul ou à plusieurs. Et je souscris évidemment 1000 fois à ce que vient de dire Sophie Janin. Elle vient de résumer en peu de phrases toutes les vertus qu'on peut attendre du chant. Et notamment le chant choral, enfin le chant collectif. C'est vrai que ça apporte bien des plaisirs et bien des vertus.
Et ce que vous souhaitez apporter justement dans le cadre de l'école avec ce plan choral lancé il y a 2 ans, main dans la main avec le ministère de la Culture, mettre la musique en avant dans le système éducatif, c'est aussi apporter le beau à l'école, beau dont parlait Sophie Janin.
Oui, j'ai aimé qu'elle évoque le beau en effet, puisque on oublie parfois de parler du beau dans nos sociétés, alors que c'est essentiel. Il m'arrive de parler du bien, du vrai et du beau, même si parfois on pourrait croire que c'est un discours surgi de l'Antiquité. Mais en réalité, nous cherchons le beau et le beau fait du bien à la vie, évidemment. Et le beau a quelques relations avec le bien et le vrai, qui sont complexes, mais il en a. Et donc c'est indispensable que de manière un peu immédiate, de manière sensorielle, de manière immédiatement accessible par tous, on puisse, par la musique, donner une idée du beau tout petit, en fait, dès la naissance et même avant la naissance. Et ceci a évidemment beaucoup d'importance sur le comportement, la façon d'être, le rapport au monde, le rapport à la vie. Donc on n'est pas du tout sur des petites choses marginales. C'est pour ça que j'ai jamais considéré que la musique devait être un petit supplément d'âme qu'on mettait à l'école, mais quelque chose qui devait être au cœur de l'école, si possible présent au quotidien, quelque chose qui relève un peu du réflexe. Et on doit faire de la musique un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, quoi. Et après tout, c'est du même ordre que le langage, c'est-à-dire quelque chose qui doit relever un peu, oui, d'un automatisme et d'une respiration quotidienne.
Et il s'agit de mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité pour ce biais-là ?
Oui, parce que évidemment, le risque en matière artistique, c'est là aussi d'avoir des inégalités renforcées, puisque selon le milieu familial, on n'a pas du tout les mêmes chances d'accès à l'art. Et donc, il est évident que c'est une raison supplémentaire pour que l'école puisse donner des occasions à tous les enfants, quel que soit leur milieu, de vivre des expériences artistiques. C'est vrai de tous les arts, bien sûr, mais c'est vrai que je mets la musique en tout premier rang pour bien des raisons, mais notamment le fait que c'est d'accès immédiat et que j'ai jamais vu un enfant qui n'aimait pas la musique, quoi.
Thank you.
de la première édition du Festival École en Chœur. C'était l'an dernier, le 1er juin dernier, à la Philharmonie de Paris, La Mère de Charles Trenet, interprétée ici par des jeunes élèves. Quelle est l'importance de ce genre de grand rassemblement, Sophie Janin ?
Eh bien, il y a plusieurs raisons. Je pense que tout d'abord, c'est important qu'on en parle, de savoir à quel point c'est important. Je pense que... c'est très facile de critiquer que ceci est pas fait, et mais je pense que si l'éducation nationale, ou même au plan plus vaste, si on avait les clés, si on avait les moyens de faire chanter les enfants, je pense que personne s'y opposerait. Mais comme c'est une chose qui est difficile à chiffrer, on a du mal parfois à motiver pourquoi c'est important. Donc je pense que c'est extrêmement positif de faire ce genre de rassemblement, parce que c'est un rassemblement aussi festif. Et on voit justement, tout le monde est emporté finalement par cette énergie. Et puis pour les enfants qui participent, ils voient aussi qu'il y a une finalité à leur travail. Donc c'est aussi qu'on va jusqu'à l'aboutissement de son travail aussi, et on célèbre ça à la fin. Et c'est ça qui est beau aussi avec la musique, c'est qu'on travaille vers une finalisation qui est joyeuse, même si elle est précise et exigeante.
Et ça, on pourra l'entendre en direct sur France Musique ce soir, puisqu'il y aura la deuxième édition du festival École en Chœur, un grand concert avec presque 1000 jeunes chanteurs venus des quatre coins de la France dans le cadre de ce festival lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je vais reprendre la question, ou plutôt la remarque que nous disait Sophie Janin. Qu'est-ce qui n'est pas fait, Jean-Michel Blanquer, en termes d'éducation musicale à l'école ?
Oh, on part de loin, parce que je pense que on pourrait dire des choses assez semblables pour le sport. D'ailleurs, la musique n'est pas suffisamment dans l'ADN de notre système scolaire depuis toujours, si je peux dire. Et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais en réalité, ça ne peut être que des mauvaises raisons. Mais il est exact que nous n'avons pas donné une place, historiquement, depuis des décennies, à la musique comme d'autres systèmes scolaires étrangers le font. Alors bien sûr, il ne faut pas caricaturer. Il y a quand même, par exemple, à l'école maternelle, une tradition de présence du chant presque tous les jours, mais c'est quelque chose qui s'estompe ensuite, et puis ça va de pair avec une forme d'inhibition de l'enfant qui existe trop souvent dans notre pays, où on a du mal à faire que l'enfant se sorte de lui-même. Et c'est une des vertus que j'attends du chant, c'est de contribuer à cette école de la confiance dont je parle souvent, qui est quand même une école de la confiance en soi de l'enfant et la confiance en autrui aussi. Et donc de ce point de vue-là, la présence centrale de la musique à l'école doit contribuer à une capacité à s'exprimer. Et c'est pour moi complémentaire, par exemple, de la réforme que l'on a faite du baccalauréat, consistant à mettre un grand oral à la fin du baccalauréat. C'est une façon d'envoyer un signal à tout le système scolaire, qui est il faut que les enfants prennent l'habitude de parler et de chanter. Vous savez, je vais souvent dans des assemblées de tous ordres, des cadres de l'éducation nationale, des professeurs, etc. Et ça m'arrive de temps en temps de dire, bon, et si maintenant je vous demandais tous de chanter, est-ce que vous en seriez capable ? Il y a toujours un petit murmure qui consiste à dire on va pas oser, quoi. Et je leur dis, ben voilà, c'est ça qu'on doit réussir à changer, c'est que ça devrait paraître normal de pouvoir chanter et d'avoir un moment de plaisir ensemble.
Et si je vous demandais de chanter maintenant, monsieur le ministre, vous pourriez ?
Oui, je peux éventuellement le faire. Mais...
on gardera ça pour la fin, évidemment. A-t-on une idée du nombre d'enfants actuellement touchés justement par des actions d'éducation artistique, culturelle, vocale ?
Le nombre d'enfants, vous voulez dire ? Aujourd'hui, nous touchons 90% des collèges, avec la mesure que l'on a prise l'année dernière, consistant à généraliser les chorales dans les collèges. Donc aujourd'hui, tout collège de France doit normalement, alors c'est arrivé pour 90% d'entre eux cette année, on va arriver à 100%, je pense, en septembre, doit pouvoir proposer 2 heures, facultatives, bien sûr, mais tout collégien peut demander à avoir une chorale. Il y a à chaque fois 2 heures de chorale par semaine. Donc ça fait que nous touchons entre peut-être 10 et 20% des collégiens à l'intérieur de chaque collège, mais c'est déjà un très beau progrès. Et puis ensuite, vous avez les écoles les écoles primaires, pour lesquelles là aussi nous voulons la généralisation des chorales. Et là, on a encore du chemin à faire, puisqu'il faut, on n'est pas encore à cette généralisation, mais il y a encore une nouvelle impulsion à la rentrée prochaine pour que toute école primaire ait sa chorale.
Et nous allons parler de la formation et l'accompagnement de ces professeurs dans un instant. Juste avant cela, je vous propose d'écouter un extrait de Mila et l'arbre bateau d'Isabelle Aboulker, une commande de l'Académie de Villecroze, justement à destination des tout-petits. On en écoute un extrait.
«
Un extrait de Mila et l'arbre bateau d'Isabelle Aboulker avec la maîtrise de Radio France, une œuvre que vous avez créée, Sophie Jeannin, en 2015 déjà. Une écriture particulière lorsqu'on s'adresse aux tout petits.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a monté ce partenariat avec l'Académie musicale de Villecroze, avec le réseau Canopé, avec l'Éducation nationale, des plusieurs partenaires, et il était important pour moi de pouvoir définir un cahier de charges. Bien évidemment, quand on est avec une compositrice comme Isabelle Aboulker, on court pas un grand risque qu'elle ne comprenne pas les enjeux. Mais en effet, je trouve l'ouvrage extrêmement touchant et je sais que c'est repris par des milliers d'enfants de France. C'est vrai que dans ce projet, il y avait la mise en ligne non seulement de la partition, mais aussi une piste sonore qu'on a enregistrée avec la maîtrise de Radio France, aussi un accompagnement de l'Orchestre Philharmonique, avec un dossier pédagogique aussi qui va avec. Et je dois dire, c'était l'été dernier, j'étais dans le métro à Paris et deux petits gars sont entrés en tenue de football avec leur papa et ils ont chanté cette chanson qu'on vient d'entendre, la chanson sur les arbres, très très fort dans le métro, et leur père disait « Excusez-moi, Isa. » Et j'étais tellement émue que j'étais un peu larmoyante presque, parce que c'est beau quand on peut voir que ça sert à quelque chose, on se sent utile quand on peut accompagner un projet comme ça.
Et c'est vrai que de proposer un accompagnement, ou du moins du matériel pédagogique, audio, pour permettre à tout un chacun de s'approprier de cette partition, de pouvoir la jouer en classe avec ses élèves ou avec une chorale qu'on constitue soi-même, c'est quelque chose d'important. Il y a effectivement cette question du financement de la formation des professeurs, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Comment mieux accompagner, je crois que c'est une inquiétude aussi de la part des professeurs qui seraient ravis évidemment de mettre en place cette option de ces 2 heures de chant vocal à l'école, mais comment leur donner les moyens de se former ?
En créant un cercle vertueux de bas en haut et de haut en bas, et donc c'est le sens de l'ensemble des mesures que nous prenons. Lorsqu'on crée par exemple un cœur de l'éducation nationale avec une soixantaine de professeurs de toute la France, on crée évidemment des formateurs de formateurs d'une certaine façon, et puis des gens qui vont être des ambassadeurs de l'ensemble des dynamiques qui sont souhaitées.
On est encore à l'embryon, là. Il y a un seul cœur pour le moment, une soixantaine de personnes.
Enfin, il y a le cœur de l'éducation nationale qui est avec Radio France d'ailleurs, et puis nous sommes maintenant nous avons achevé de créer pour les 13 régions académiques un cœur aussi donc régional composé de professeurs d'éducation musicale. Et donc là aussi, c'est des moments de rencontre, c'est aussi des moments de formation et avec des contagions positives ensuite sur le terrain. Mais au-delà de ça, je tiens beaucoup à ça avec l'inspecteur général, monsieur Maestracci, parce que on a toujours besoin d'avoir un point de repère, d'avoir quelque chose de beau qui indique un chemin. C'est un peu ce qui va se passer ce soir avec le concert, c'est ce qui se passe avec ces réunions de professeurs qui, par définition, sont des passionnés, sinon ils n'auraient pas choisi ce métier, et qui donc, à partir du moment où ils sentent que l'institution reconnaît cette passion comme essentielle, se sentent un petit peu avec du vent dans les voiles, si je puis dire. Alors après, tout ça doit se traduire aussi dans des formations concrètes, en chaîne, si je puis dire, et c'est ce que nous avons poussé avec des programmes de formation, notamment pour les professeurs des écoles, avec des conseillers pédagogiques, des inspecteurs de l'éducation nationale, de l'école primaire dans chaque partie du territoire, de façon à infuser. Et donc je pense qu'on a déjà eu de très beaux progrès cette année et que ça va aller, la croissance va continuer. Ensuite, il y a le sujet des outils pédagogiques. Avec vous et d'autres partenaires, il y a le ce qu'on appelle Vox sur portable qui permet de former ma chorale interactive, qui permet de donc c'est une application qui permet de se former à la fonction de chef de chœur. Et là aussi, il faut désinhiber les acteurs, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas être un grand chef de chœur de Radio France, mais on peut être un chef de chœur tout à fait honorable dans son école, même si on n'est pas professeur d'éducation musicale. Donc nous devons un petit peu créer cet entraînement et cette désinhibition, et la formation continue volontariste que l'on est en train de déployer doit y contribuer.
D'une vidéo qui a été postée sur l'espace numérique national dédié à la pratique chorale ici des tout petits. On est en petite section, la chorale de l'école maternelle Cambrai de l'Académie de Paris avec Béatrice Joly à la direction. Et il y a évidemment l'accompagnement des professeurs, on vient d'en parler, Sophie Janin. Il y a aussi le financement du répertoire aussi. Et je pense que vous allez jouer un rôle particulier dans les mois, dans les années à venir, Sophie Janin, avec la présidence du comité national pour cette initiative.
Oui, en effet. On m'a demandé de assurer cette présidence et je pense qu'il faut pour cette fonction-là une personnalité musicale et du coup qui est conjointement nommée par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse mais aussi par le ministère de la Culture. Et moi, ça m'intéresse toujours parce que la vraie démocratisation de l'accès à l'art, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et c'est notre seul possible chemin, vraiment. Et on parlait justement des formations des professeurs, etc., de pouvoir avoir ce réseau aussi. Moi, j'ai donné des stages aussi pour les conseillers pédagogiques en éducation musicale. Et quand on sait que le réseau est géré justement par le ministère, on a cette démocratisation finalement. Et donc moi, ça me passionne de pouvoir participer et de contribuer à ce pilotage parce que l'ampleur que le projet de chant choral prend maintenant est quelque chose qui me réjouit.
Il y a une explosion particulière ces derniers mois, ces dernières années, Sophie Janin.
Bien, je pense que au moment que c'est annoncé que les écoles, les collèges, les lycées, qu'on renforce la pratique musicale et qu'on accompagne ça avec des grands jours de rassemblement, comme on a pu voir, par rapport à notre portail Vox aussi, à Radio France, que tous les acteurs se mettent dans ce projet. Moi, je trouve qu'en ce moment, on en parle et ça fait tellement de bien parce que le chant choral, vous savez, c'est un art discret aussi. Donc, il a besoin d'aide.
De la diversité aussi, on pourra l'entendre ce soir à 20h en direct sur France Musique, mais également en vidéo, bien sûr, concert retransmis sur francemusique.fr, sur notre espace concert, sur le Facebook Live de France Musique, mais aussi sur les pages Facebook des académies de Versailles, de Créteil, de Paris et de l'Éducation nationale. On va écouter à présent un arrangement de l'Ode à la joie de Beethoven qui terminait le concert 2018 de ce festival École en chœur et qui terminera celui de ce soir, Jean-Michel Blanquer. Un dernier mot peut-être sur cette diversité ou peut-être sur la place de la musique classique au sein de cette initiative, de ce plan choral.
Franchement, la musique classique est évidemment très importante dans ce contexte et parce que nous disions tout à l'heure qu'il y avait un rôle social aussi des arts à l'école et je considère que justement la musique classique est un discriminant social s'il ne se passe rien à l'école en la matière puisque les enfants des milieux défavorisés la plupart du temps n'y auront pas accès. Donc ce serait une erreur que d'éloigner la musique classique sous prétexte d'être moderne à l'école. Je pense que c'est tout le contraire. On a besoin de faire en sorte que tous les enfants, toute classe sociale confondue, est entendu de la musique classique, notamment dans les premières années de la vie, ne serait-ce que parce que l'histoire d'un individu peut recouper l'histoire de la musique aussi, et donc avoir entendu d'abord ce qui est au fondement de la musique me paraît essentiel pour la culture générale de l'enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons avec le ministère de la Culture sur ces questions. Et ce soir d'ailleurs, Franck Riester sera là.
Également, et dans la salle.
J'ai déjà échangé avec Jack Lang sur ces questions, qui dans le passé avait été très, très actif sur ces questions, et nous partageons les mêmes conviction et je sais à quel point finalement quelles que soient les musiques que l'on pratique on peut souhaiter que cette musique classique soit d'abord et avant tout très présente.
Merci Monsieur le Ministre et merci Sophie Janin merci. D'être venue nous parler de ce plan choral et puis de ce grand concert, je rappelle, Festival École en Chœur qui sera donc retransmis à 20h sur France Musique et en vidéo sur notre espace concert. Il est 8h50. Bonjour Julie Depardieu.
Bonjour Saskia, chers auditeurs, Monsieur le Ministre. La ville de Pessarou vient d'inaugurer un musée national Rossini. Cette musique donne de l'espérance aux cœurs les plus endormis, dira Balzac. Balzac rencontre Rossini en 1832, chez Olympe Pélissier et le fréquente jusqu'à se déclarer son ami et à être reconnu comme tel. Il va l'entendre à l'opéra, assiste aux réceptions données par le maître. Balzac, devenu écrivain à la mode avec le succès de La peau de chagrin. Le roman, dès sa parution, est qualifié de rossinien par Philaret Chasle, un journaliste, dans son article du 6 août 1831. Si la société telle qu'elle est vous ennuie tant soit peu, et qu'il vous agrée de la voir pincée, fouettée, marquée en grande pompe, sur un bel échafaud, au milieu de tout le fracas d'un orchestre rossinien, d'un tintamarre incroyable et la décoration la plus assourdissante, lisez La peau de chagrin. Vous en avez pour 3 nuits d'images éclatantes qui soulèveront les rideaux de votre alcôve, pour peu que la nature vous ait doté d'imagination. Critique que Balzac ne désavoue pas, bien au contraire. Il fréquente les salons et fait la connaissance de Rossini. Rossini est parisien depuis 6 ans. Il connaît la gloire la plus grande dans toute l'Europe. Il s'est séparé de sa femme et est devenu l'amant d'Olympe Pélissier. En 1832, Rossini a 40 ans, occupe la place que tout artiste rêverait d'avoir. Son œuvre est, selon lui, achevée. 40 opéras sans cesse donnés et redonnés sur toutes les scènes européennes. Il a accès à toutes les cours. Tous les honneurs lui sont prodigués. À l'époque, c'était la mode des albums où l'on collectionnait les autographes de gens célèbres. Véritable course aux signatures à laquelle s'adonnait Monsieur Hanski, mari de Madame Hanska, future femme de Balzac. Pour lui plaire et se grandir à ses yeux, Balzac demanda un autographe à Rossini. Le 17 novembre 1833, il écrit à Madame Hanska. Quant à Rossini, je veux qu'il me fasse une jolie lettre. Et voilà qu'il me fait dîner avec sa maîtresse. Il me promet son mot, de la musique, il est très obligeant. Voilà 2 jours que nous nous courons l'un après l'autre. On ne se fait pas d'idée de la ténacité avec laquelle il faut vouloir une chose à Paris pour l'avoir. Plus petite est cette chose, moins on l'obtient. Mais 2 jours plus tard, il adresse à Monsieur Hanski l'autographe suivant. « Mon cher Balzac, vous me demandez un autographe? Eh bien, le voilà. De quoi vous parlerai-je? Est-ce de vous? Vous qui marquez le siècle par vos chefs-d'œuvre. Vous êtes, mon ami, un trop grand colosse pour que je puisse vous entreprendre. Et d'ailleurs, que vous ferait le suffrage d'une naïveté étrangère? Je me bornerai donc à vous dire que je vous aime avec tendresse et que vous, à votre tour, ne devez pas dédaigner d'avoir ensorcelé le pessariote que je suis. Rossini. Balzac admire l'homme et son œuvre. La fréquentation de l'opéra des Italiens a développé sa sensibilité musicale, enrichi son imaginaire. Il éprouve une sorte de parenté avec Rossini, comme une complicité du créateur pris dans l'urgence de ses contrats, menant de front 2-3 œuvres à la fois. La rapidité de composition rossinienne n'est pas une légende. 13 jours pour Le Barbier de Séville. 3 ou 4 minutes pour composer cet air, dit Tanti Palpiti de Tancrède, d'après un drame de Voltaire qui triomphe, lui aussi, dans toute l'Europe.
Et qu'on va écouter d'ailleurs. Merci beaucoup Julie pour cette chronique. On réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Place à la musique.
Ben oui.
Bonne journée Julie.
Bonne journée. Thank you.
Qui palpite hier de Tancrède, Gioachino Rossini, on écoutait Marilyn Horn, l'orchestre du théâtre de la Fenice, Ralph Weckert à la direction pour accueillir Émilie Minerai, Rodolphe Bruno Bumier pour l'émission En Piste. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Saskia.
Nous aussi un peu de pédagogie avec du Bach pour ouvrir cette émission et le dernier disque de Thibaut Noali, Bach & Co. et ses copains ou ses compagnons, comme vous voulez.
À choisir. Eh bien, on découvre ça dans un instant dans l'émission En Piste sur France Musique, bien sûr. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe. Xavier Attaud, Antoine Giraud, David Travailleur, Marjolaine Portier-Kaltenbach, Max Dozolm, Antoine Baglin. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles à Musique Matin. Je vous souhaite une très très belle journée à notre écoute.
À réécouter sur francemusique.fr.